voudrais faire, pour le compte de la Fédération internationale des droits de l'homme, donc, dont je suis à la fois le conseil et le président d'honneur, trois observations principales. La première, c'est rappeler que le problème de l'implication française au Rwanda n'est pas nouveau. Alors, juste le point suivant, un rapport avait été fait et remis en mars 1993 avec un certain nombre d'observateurs mandatés par plusieurs organisations de défense des droits de l'homme. Donc soit la Fédération internationale des droits de l'homme, soit Human Rights Watch, par exemple. Et ce rapport, déjà, était en quelque sorte la chronique, l'annonce d'un génocide programmé. Il faut le rappeler, les sonnettes d'alarme avaient été tirées à l'époque, et malheureusement, d'une manière tout à fait vaine. Et dans ce rapport, lorsque l'on s'y réfère, l'on constate qu'il y a déjà une mise en garde des auteurs du rapport contre à l'égard du soutien politique et militaire de la France vis-à-vis des autorités de Kigali d'alors, avec donc le président Habyarimana. C'est la première observation pour replacer un peu dans un contexte, je crois qu'on n'a pas le temps ici, mais bien replacer dans ce contexte d'implication des autorités françaises bien préalablement à ce qui s'est produit en 1994 et déjà les critiques qui pouvaient être légitimement formulées à l'époque. Deuxième observation, pourquoi une intervention de la FIDH et de la LDH aux côtés des parties civiles, personnes physiques qui sont plaignantes dans cette affaire? Évidemment, d'abord, parce que avant de s'engager et donc de se constituer partie civile, la FIDH et la Ligue ont examiné avec attention l'argumentation des plaignants, hein, des personnes physiques. Donc, il est évident, quand on lit les plaintes, les documents joints, qu'il y a un caractère pour le moins sérieux et très convaincant au regard des infractions qui peuvent être reprochées et qui sont, il faut le rappeler aussi, d'une particulière gravité. Alors, il est vrai que lorsqu'on intervient sur le Rwanda, très vite, on est suspect de vouloir appartenir à un camp ou à un autre. Là, il y a une mise en cause de militaires français. L'on aura tendance à nous dire, mais vous mettez en cause les militaires français, vous mettez en cause les Hutus, et quelque part vous êtes un peu pro-Kagame, pour simplifier. Alors, il faut tout de suite balayer, je crois, ce type de critique. Il n'y a pas dans nos actions, évidemment, de sélectivité, et nous considérons que les responsabilités des uns ne doivent en aucun cas occulter les responsabilités des autres. Autrement dit, là, nous avons un dossier mettant en cause des militaires français et une sorte de collusion avec des Hutus dont ont été victimes les Tutsis. Mais à l'inverse, il faut souligner que, bien évidemment, nous n'hésitons pas à dénoncer lorsque cela est nécessaire les exactions qui peuvent être commises, par exemple aujourd'hui, par le régime de Kagame, et à regarder avec le même œil vigilant ce qui peut être fait, encore une fois, par les uns et les autres. Sur ce point, on pourrait aussi mentionner l'implication des autorités rwandaises dans ce qui se passe aujourd'hui en RDC, en République démocratique du Congo, avec, vous le savez sans doute, l'ouverture d'une première, c'est la première saisine, la première affaire soumise à la Cour pénale internationale qui concerne donc la République démocratique du Congo. Troisième observation, notre seul souci est l'impératif de justice. L'impératif de justice pour ce qui s'est passé en 1994 au Rwanda, avec une gravité de crime. Hein. Il faut quand même rappeler qu'on est sur le terrain du génocide, du crime contre l'humanité, qu'il y a eu entre 800 000 et 1 million de victimes. Je crois qu'il faut le redire sans cesse. Donc je pense que ça mérite tout de même qu'on s'y attarde et que l'on essaye d'établir vérité et justice. Alors il existe le tribunal pénal sur le Rwanda, il existe aujourd'hui ces juridictions sur lesquelles on peut avoir des appréciations diverses, ce qu'on appelle les cha-cha-cha, bon, qui sont les cha-cha-cha, pardon, qui sont créés au, qui sont créés au Rwanda. Bon, ceci étant, cet impératif donc doit s'imposer. Et il doit s'imposer, quels que soient les auteurs. Je crois que c'est aussi essentiel de le souligner. Il n'y a pas lieu là aussi à sélectivité, quels que soient les auteurs. Alors, quand on regarde effectivement ce qui se passe dans le cadre de l'instruction en cours, avec d'abord Mme Reynaud, maintenant un nouveau juge d'instruction, on ne peut qu'être frappé à l'examen du dossier, comme le rappelait Antoine Combes tout de suite, par la multiplication des entraves du parquet. Depuis le début, le parquet joue au chat et à la souris, multiplie les entraves, n'ose pas affirmer clairement qu'il ne veut pas de cette instruction, mais fait tout pour l'empêcher. Donc, ce n'est pas seulement de la part du parquet une absence d'implication pour répondre à l'impératif de justice, c'est pire encore, une entrave apportée à la possibilité de parvenir à cet impératif de justice dans le cadre de l'instruction ouverte. Alors le comble, et c'est ce qui a motivé notre point presse de ce matin, le comble résulte quand même du dernier élément, Antoine l'a rappelé tout à l'heure, mais je ne peux pas m'empêcher de me référer aux réquisitions du parquet qui étaient des réquisitions du 6 octobre 2005. Le parquet, à ce moment-là, considérait que les plaintes qui avaient été déposées, c'était pas suffisant, avec beaucoup de mauvaise foi, parce que quand on lit la plainte et les documents annexés, on est quand même assez convaincu de la nécessité, pour le moins, d'ouvrir une information. Eh bien, il trouvait que ce n'était pas suffisant. Il demandait donc à la juge d'instruction, Mme Reynaud, de délivrer en tant que de besoin une commission rogatoire internationale aux autorités judiciaires rwandaises ou de se transporter sur les lieux. C'est le parquet qui demandait, le 6 octobre 2005, à la juge, soit de délivrer une commission rogatoire internationale, soit de se transporter sur les lieux. Elle se transporte sur les lieux. Et j'ai pu voir qu'on avait même été jusqu'à jouer sur les horaires d'avion, pour essayer de dire que c'était compliqué, sur sa sécurité, dire que sa sécurité, elle prenait des risques. On a tout fait pour la dissuader, en réalité. Bien, mais elle va là-bas, comme le parquet le demande. Et maintenant, que fait le parquet? Ah, il dit, mais c'est irrégulier. C'est tout à fait irrégulier. Vous ne pouviez pas faire ça, et moi, je demande la nullité et des auditions auxquelles vous avez procédé là-bas et de la suite. C'est tout de même hallucinant. Et c'est ce qu'on appelle dans le jargon, c'est se prévaloir de sa propre turpitude, en quelque sorte. Donc c'est tout de même un comportement qu'il convient effectivement de dénoncer, ce qui est l'objet de notre réunion de ce matin. Alors pour terminer, nous sommes d'autant plus sensibilisés à cette attitude du parquet, cette attitude encore une fois inadmissible, et qui va tout simplement à l'encontre de l'impératif qui devrait être celui constamment poursuivi par un parquet, c'est-à-dire l'impératif de justice. Eh bien, nous sommes d'autant plus inquiets et prêts à dénoncer ce comportement que malheureusement, il n'est pas isolé. Il n'est pas isolé. Et que l'on observe systématiquement du côté du parquet, quand ce n'est pas du côté d'ailleurs des magistrats du siège, une frilosité à chaque fois où finalement les relations d'État à État ou ce qui peut toucher à la sécurité ou la raison d'État, comme l'on dit, hein, une notion si facile et si souvent utilisée, lorsque donc ces relations d'État à État se trouvent en cause. Alors je citerai juste, il y aurait une multitude d'exemples à citer, mais nous avons par exemple une affaire qui est une affaire qui a concerné le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, comme vous savez peut-être, il y a eu là aussi un massacre en mai 1999 à Brazzaville, une plainte en France, l'ouverture d'une information à l'initiative du parquet, une information contre X, et par la suite, je vous épargne les péripéties de la procédure, mais par la suite, 3 ou 4 ans plus tard, le parquet, dans le cadre d'une procédure devant la chambre de l'instruction, est venu en quelque sorte dire « Ah oui, mais l'information a été ouverte contre X, donc ça ne permettait pas de poursuivre des personnes physiques nommément désignées, personnes physiques qui avaient été mises en cause, des Congolais, hein, qui étaient mises en cause de façon évidente, hein, pour les massacres de Brazzaville. Et le résultat a été que la chambre de l'instruction, par un arrêt de novembre 2004, a annulé effectivement toute la procédure. Donc on trouve le même type de comportement du parquet qui ouvre une information et qui après se prévaut des conditions d'ouverture de cette information faite par lui-même pour demander une nullité. Alors, juste un autre exemple récent, si vous voulez, j'en aurai d'autres en tête, mais ne pas allonger davantage. Il y a peu de temps, la Ligue et la FIDH, avec un certain monsieur Farah, qui est un ressortissant franco-libanais, ont saisi le parquet de Nanterre parce que ce ressortissant franco-libanais s'est retrouvé dans les geôles syriennes où il a été torturé pendant 10 ou 11 jours. Nous avons déposé une plainte simple à Nanterre, eh bien, alors qu'il s'imposait d'ouvrir une information. Eh bien, le parquet l'a aussi à lanterner, nous a fait lanterner, et nous avons dû en définitive déposer une plainte avec constitution de partie civile. J'indique d'ailleurs que suite au dépôt de cette plainte, tout d'un coup, le Quai d'Orsay, qui n'avait pas répondu à nos lettres, s'est manifesté pour m'adresser un courrier il y a 48 heures et me dire « Nous sommes désolés de ce qui est arrivé à ce ressortissant, nous promettons d'apporter notre concours, etc. » C'est vous dire qu'à chaque fois, il y a ce même type de comportement. Alors, toute dernière conclusion, je crois qu'on est en réalité en présence d'une sorte de double langage, y compris à la tête de l'État. Bon, il n'y a pas si longtemps, le président Jacques Chirac, d'une façon tout à fait exemplaire, rappelait dans un discours, je crois, sur l'un des camps de déportation où il s'était rendu, plus jamais ça, plus jamais ça. Heureusement qu'il existe une justice internationale. Nous sommes engagés aux côtés des victimes. Très beau discours. Et puis, dans la réalité, eh bien, il n'en est rien. Et force est d'observer qu'en France en particulier, c'est pas le seul pays, mais particulièrement en France, eh bien, ce beau discours n'est pas du tout mis en accord avec les actes. Et à chaque fois où il pourrait y avoir une possibilité d'intervention, comme c'est le cas dans l'affaire donc du Rwanda, eh bien, on voit au contraire que la France se trouve adopter une position qui est une position de négation et qui est une position finalement de maintien de l'impunité. Et c'est cela que nous condamnons. On est pour ou on est contre l'impunité, et si l'on est contre l'impunité, on ne le manifeste pas seulement par de beaux discours, on le manifeste dans le comportement, y compris dans le comportement de son parquet, qui, je le rappelle, dépend des autorités gouvernementales, dépend de l'exécutif.